Mes sudames, bienvenue. Nous sommes jeudi 30 avril et vous êtes bien en direct sur le studio Kalangou, le journal en français, c'est tout de suite. Et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Au micro, Diallo Mariama Kenda. Le Niger a classé parmi les 8 pays africains enregistrant le plus fort taux de guérison du coronavirus. La situation par région tout de suite dans ce journal. Le Tchad vient d'abolir la peine de mort. Vous entendrez la réaction du président du mouvement abolitionniste nigérien qui attend que le Niger en fasse autant. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, nous découvrirons l'explication d'un spécialiste sur la relation entre l'insécurité au Sahel et le changement climatique. Plus de 700 personnes ont été testées positives au COVID-19 à la date du 29 avril 2020, d'après la situation statistique sur la pandémie du COVID-19 au Niger. Selon une note de l'Institut national de la statistique, INS, qui s'est basée sur les données publiées par le ministère de la Santé publique, près de 60% des patients sont sortis guéris du traitement, classant le Niger parmi les 8 premiers pays qui enregistrent les plus forts taux de guérison en Afrique. Les détails avec Reylatou Soumana.
Le 19 mars 2020, apparition de la pandémie du coronavirus au Niger. À la date du 29 avril, il a été recensé sur le plan national 713 personnes infectées au COVID-19, dont 55 cas enregistrés dans les régions. On compte respectivement 11 à Dosso, 3 à Maradi, 12 à Tawa, 5 à Tillabéri et 23 à Zinder. Toujours à la date d'hier, selon l'Institut national de la statistique, sur les 713 cas enregistrés, 32 personnes sont décédées, 246 patients sont en cours de traitement et 435 sortis guéris, soit 61% de taux de guérison, ce qui classe le Niger parmi les 8 premiers pays enregistrant les plus forts taux de guérison en Afrique. À ce jour, seules les régions d'Agadez et de Diffa n'ont pas encore été touchées par la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19, a précisé l'Institut national de la statistique.
Les gestes barrières édictés par les autorités dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 sont de moins en moins observés par les populations à Niamey, ce qui constitue un risque de propagation de la maladie. Docteur Dagobi Adoua, socio-anthropologue et membre du comité des experts COVID-19, explique les raisons de ce relâchement.
Au départ, il y avait une certaine conscience élevée de la maladie. Il y avait une certaine peur qui fait que les gens respectaient les différentes mesures préconisées. Ce qui me semble constater aujourd'hui, vous avez une opinion assez forte contre ces mesures. Ce qu'ils disent, par exemple, que le COVID-19, c'est une maladie imaginaire. On ne voit pas vraiment les malades. Je pense qu'il faut peut-être étudier cela de très près. Les responsables en charge doivent écouter les différents arguments développés par la population et puis répondre à ce qu'elles peuvent répondre. Donc, a priori, le risque n'est pas ressenti de façon intense par les gens.
Dans le département de Dogondouchi, après 6 mois de cours dans les établissements scolaires du secondaire, 40 à 75% des programmes ont été exécutés dans les collèges et lycées. Selon le directeur départemental des enseignements secondaires de Dogondouchi, l'année scolaire allait bien se terminer s'il n'y avait pas eu cette pandémie de COVID-19. Alassane Iboun, au micro d'Abdoul Aziz Danyuma.
On a assuré 6 mois de cours et plus. Les programmes étaient exécutés normalement. Il y a eu la tenue de composition du premier semestre et partout, les résultats ont été donnés aux élèves. Les élèves ont leur bulletin. Juste avant d'aller en congé, nous avons fait la situation du taux de progression des programmes dans tous les établissements. Au niveau du lycée, les taux variaient entre 50 à 75% de taux de progression selon les disciplines. Au niveau niveau des collèges, les taux variaient de 40 à 70%. Voilà, donc les taux étaient vraiment nous satisfaisants et on pouvait terminer l'année normalement, n'eût été cette pandémie.
Le 28 avril, les députés tchadiens ont voté l'abolition de la peine de mort, une peine jusqu'ici applicable pour les faits liés au terrorisme. Cette décision se situe dans le cadre de l'harmonisation de la législation, de la légalisation, pardon, dans les pays du G5 Sahel, a déclaré le ministre tchadien de la Justice au journal Le Monde. Pour Alfari Balma Moumni, le président du mouvement abolitionniste nigérien, cette décision du Parlement tchadien tombe à point nommé. Il est au micro d'Olivier Assoubavi.
C'est une très bonne nouvelle. Nous pensons que notre pays doit s'inspirer de ses voisins pour aller dans le sens de l'abolition de la peine de mort dans nos textes pénaux. Donc, puisqu'on parle d'harmonisation dans l'espace du G5 Sahel, le Niger ne peut pas se soustraire. Et nous pensons que dans cet espace-là, notre pays est le seul. Le Tchad, le Sénégal et même le Mali, tous ces pays-là ont aboli la peine de mort. Donc le Niger a un moratoire pour qu'on n'exécute pas. Nous pensons que nos autorités doivent saisir cette occasion pour aller vers l'abolition de la peine de mort de manière définitive au Niger.
Mardi dernier, le gouvernement ivoirien a décidé de retirer sa déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devenant ainsi le quatrième État africain après le Bénin, le Rwanda et la Tanzanie. Selon le coordonnateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie du Niger, cette décision est un recul grave pour la démocratie en Afrique. Kani Abdoulaye est au micro de Moussa Hassan.
On a constaté que dans certains pays africains, que la justice interne est instrumentalisée. C'est ainsi qu'il y a eu ce protocole pour pouvoir instituer une cour africaine et permettre surtout aux organisations de la société civile et même aux personnes physiques de saisir directement cette cour dans leur quête de justice. Je n'aurais pas imaginé qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui revenait hier seulement d'une situation aussi dramatique, pourrait effectivement aujourd'hui se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un recul grave, surtout pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Parce que si vous regardez, il y a environ 31 affaires, représentant 11% des affaires au niveau africain, rien que pour la Côte d'Ivoire.
Ce 30 avril, c'est la 24e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Au Niger, cette journée est célébrée sous le thème « Travailler ensemble pour prévenir les risques professionnels ». Mais qu'est-ce qu'on entend par « risque professionnel » Réponse avec Amadou Haruna Maïga, ancien secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger. Il est joint au téléphone par Tanan Foudé Ahmed.
Au niveau du milieu du travail, il y a trop de risques. D'être les travailleurs, s'ils ne prennent pas garde, ils vont même perdre leur vie. C'est pour ça qu'un certain nombre de mesures sont prises au sein des entreprises pour prévenir des risques, voire les éliminer pour certains. Et d'autres, on ne peut pas les éliminer, mais on arrive à les amoindrir par la prévention.
Un travailleur victime d'un accident de travail, il serait pris en charge par qui?
Les premiers soins sont pris en charge par votre employeur. Parce que imaginez que c'est un accident grave survenu sur un chantier. Ensuite, le relais est pris par la Caisse nationale de sécurité sociale. Même les premiers soins engagés par votre employeur pourraient être remboursés par la Caisse, y compris même s'il le faut, des évacuations sanitaires à l'extérieur.
Célébration ce jeudi 30 avril de la journée de la non-violence éducative. Au ministère de l'enseignement primaire du Niger, la directrice de la promotion et de la scolarisation des filles souligne les différentes formes de violence que subit l'enfant à l'école.
À l'école aussi, il y a plusieurs formes de violence. Elle peut être morale lorsqu'il s'agit des réprimandes, des propos déplacés, exercés par l'enseignant. Elle peut être exercée par d'autres élèves. Elle peut être physique. Le châtiment corporel, il est formellement interdit au Niger. Mais ce n'est pas rare devant certaines situations que les enseignants recourent à la violence. Mais cette violence physique, il faut le dire, on la rencontre le plus souvent à l'école primaire. Normalement, dans chaque établissement, dans le règlement intérieur, il y a des articles spécifiques qui proscrivent l'usage de la violence en milieu scolaire.
Vous venez d'entendre Mariama Chifkao, directrice de la promotion et de la scolarisation des filles au ministère de l'enseignement en primaire.
Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je te trouve très soucieuse.
Donc tu n'as pas entendu la nouvelle?
Mais c'est quoi cette nouvelle qui t'angoisse tant?
La maladie là qui fait des ravages dans le monde entier, elle est venue chez nous.
Tu parles de coronavirus?
Mais oui.
C'est vrai, la maladie, elle est bel et bien arrivée chez nous. Mais tu ignores qu'on peut bien se prévenir?
C'est une bonne nouvelle. En faisant comment?
Eh oui, les spécialistes de la santé conseillent de vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. Éternuez ou toussez dans les creux de votre coude, puis lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Il faut garder au moins un mètre de distance entre vous et les autres personnes. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Et si cela est impossible, lavez-vous les mains après le contact. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. Il faut éviter les déplacements non essentiels et éviter aussi tout regroupement.
Tout? Et le mariage de ma fille?
Eh ma chérie, pense à ta santé et à celle de ta famille.
Je te remercie beaucoup pour cette nouvelle que je vais d'ailleurs partager avec toutes les voisines.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, le Sahel central, théâtre de nouvelles guerres climatiques, c'est le thème d'une étude menée par l'International Crisis Group, une organisation indépendante qui s'emploie à prévenir les guerres et les conflits. Dans cette analyse, les chercheurs décortiquent la relation qui existe entre l'insécurité au Sahel et le changement climatique. Selon Ibrahim Yahya, co-auteur de l'étude, cette situation expliquerait la multiplication des groupes armés dans les zones rurales dont certains se revendiquent du djihad. Ibrahim Yahya répond aux questions d'Alassane Abdou.
Selon l'étude de International Crisis Group dont vous êtes membre, qui est intitulé « Le Sahel central, théâtre des nouvelles guerres climatiques », dans l'étude on dit « Pour trouver des réponses adaptées à la montée de l'insécurité, il importe de sortir de l'équation simple entre réchauffement climatique, raréfaction des ressources et flambée des violences. » Monsieur Ibrahim Yahya, pourquoi ces relations entre ces trois points?
Alors, le trait d'union entre changement climatique et conflit armé est très vite fait, y compris par des observateurs, mais surtout des décideurs politiques. Leur argument est que l'augmentation des températures au Sahel produirait davantage de sécheresse et d'inondations, qui compromettrait la production agricole, augmenterait la pauvreté et nourrirait les violences. Mais pour nous, la multiplication de conflits est moins liée à la diminution des ressources disponibles qu'à la transformation des systèmes de production qui génèrent des compétitions parfois mal régulées par les autorités. Ce sont des compétitions autour de l'accès aux ressources, en particulier les ressources foncières, de plus en plus convoitées.
Les politiques de développement, selon l'étude, conseille pour ces raisons de veiller à la mise en place d'outils capables d'assurer une répartition plus équitable des ressources. Est-ce à dire que l'ensemble des États du Sahel central doivent avoir les mêmes outils ou bien c'est des outils par pays?
Dans cette étude, nous n'avons pas fait des recommandations spécifiques à chaque État. Notre intérêt ici est d'attirer l'attention des décideurs à prendre la mesure de cette complexité et d'aller au-delà des schémas classiques pour prendre en compte les nuances que nous avons relevées afin d'améliorer leur efficacité dans la lutte contre l'insécurité et aussi dans la lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne les politiques de développement, effectivement, si ces politiques partent du postulat selon lequel le changement climatique produit une raréfaction de ressources et donc génère une flambée de violence, les réponses auxquelles on devrait s'attendre, ce sont des réponses de type classique où des investisseurs ou des acteurs de développement investissent davantage dans la création des infrastructures hydrauliques et des infrastructures hydroagricoles et penser que à travers ces infrastructures-là, ils peuvent endiguer la violence. Les infrastructures de développement, si elles sont une bonne chose pour les bénéficiaires, sans une meilleure politique de leur gestion, pourrait aussi constituer un facteur du conflit.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.